Bonjour.
Bonjour.
On va passer une demi-heure ensemble.
Une belle demi-heure.
Alors il faut ça chaud. Allez, on y va. On commence par l'échauffement. Allez, on prend sur place. Tranquillement, souplement. En respirant.
Allô, yes.
Allô, les églombés, ici Condor.
Allô, quoi? Putain, on va devenir.
Allez, encore, faut
se dire. Yes, niqué la pétition. Allô, yes.
Ici Condor, allez, sautez du nid.
Oh non, Condor, pas ça.
Bon, hé, hey, même si le réveil sonne la première humiliation de la journée, c'est pas une raison pour pas se lever.
C'est vrai, Condor.
Bon, alors écoute ça. Paris s'est transformé en basse-cour aux mains des vautours. Les pigeons sont surveillés par les poulets et n'ont pas l'air de s'en plaindre. Nous avons besoin d'ailes complices. Nos envolées se terminent trop souvent en cage ou se heurtent au filet tendu autour de la ville. Cette mission, si vous l'acceptez, est de fouiller dans cette volière et de dénicher les quelques oiseaux rares qui n'ont pas encore renoncé à briser leur chaîne.
Ok, Condor, ok, on s'envole. On s'envole. On s'envole.
Attention, attention, appel à toutes les voitures. Attention, attention, appel à toutes les voitures.
C'est un point marqué par la loi contre le crime. Or voici que se développe, vous l'avez dit, monsieur le député, un début de polémique. Au risque d'attiser l'incompréhension et même la haine dans certains secteurs de l'opinion, on va jusqu'à parler, j'ai entendu utiliser cette expression, d'assassinat délibéré. Il m'appartient d'affirmer que je ne laisserai pas des gendarmes ou des policiers sans défense quand on leur tire dessus. Nous aurions préféré prendre quelqu'un vivant, ce qui aurait facilité l'enquête.
Il a choisi la violence, il en a payé le prix.
Et beaucoup de mal à prendre. Je peux vous donner la signification des explosions que vous avez entendues.
Il a payé le prix. étant donné la tactique adoptée par la police,
les policiers ont beaucoup et beaucoup de mal à progresser en ce moment.
Et puis quoi?
T'as bien un nom?
Un nom?
T'as fini de tout répéter?
Péter.
Vous étiez venu déposer plainte pour kidnapping de votre chien, c'est ça, hein?
Exactement.
Ouais. Vous avez récupéré votre chien ou...
Pas du tout.
Il est toujours kidnappé, hein?
L'enterrement est pour demain. Les agents qui ne sont pas sur le terrain sont tenus d'y assister. Les dons destinés à sa famille seront remis à Cécile, comme d'habitude.
Dis-lui qu'on va lui faire signer une autorisation et que je lui mettrai un doigt dans le derrière. Dis-lui qu'on va lui faire signer une autorisation et que je lui mettrai un doigt dans le derrière.
Manger.
Bon. Ça fait 3 heures que vous bassinez mon copain avec vos niaiseries, là. J'ai lu vos dépositions. Dans le genre histoire à dormir debout, ça se pose vraiment un peu là, hein. Un vrai conte pour enfants. Vous connaissez le poète allemand Heinrich Heine. Et bon, au moment de sa mort, il a dit « Dieu pardonne parce que c'est son métier ». Mais malheureusement pour vous, c'est pas le mien de métier. Vous jouez les satires, Dieu pardonne, moi j'enquête. Alors mes mignons, on va reprendre tout ça, hein? C'était quand?
Il y a de cela fort longtemps.
Non. Commence pas comme ça, t'es gentil, hein. Tu réponds sans faire d'histoire, c'était où?
Dans un pays fort lointain dont on ne connaît même plus le nom.
Ok. Et comment elle s'appelait la petite?
Tout le monde la surnommait « Et pourquoi ?»
Et pourquoi? Tu veux quand même pas me faire gober ça? Elle était comment cette gamine?
Elle voulait tout comprendre, tout apprendre. Elle avait tellement peur de ne pas avoir le temps de comprendre tous les mystères qui l'entouraient qu'elle refusait de céder au sommeil et ne s'endormait qu'épuisée.
Épuisée, tiens. Et pourquoi elle était épuisée?
Elle interrogea les gens autour d'elle à tout propos.
Et pourquoi la lune n'a jamais la même forme?
La lune a éclairé au milieu, ouais.
Une nuit qu'elle n'arrivait pas à dormir, poursuivie par un de ces mystères insolubles, elle regarda le ciel et, pour la première fois, vit les étoiles. Cette nuit-là, et pourquoi ne dormit pas? La tête pleine de rêves étranges et merveilleux, elle regarda les étoiles. Elle ne les regarda pas seulement avec ses yeux, mais tout son corps semblait comme absorbé par cette contemplation. Ses parents ne dirent rien. Ils aimaient leur fille et n'étaient pas de ces adultes qui exigent que leurs enfants leur disent tout et soient comme ils auraient aimé être.
Ah, parce que les parents aussi sont complices. Et c'était quoi leur rôle dans le réseau?
Juste au moment de partir, elle leur demanda seulement où habitait Birou.
Parlez-moi un petit peu de ce Birou-là, justement. C'est bien votre complice ici présent. Jules Morteau, dit le gourou, multirécidiviste, fiché à la mondaine pour pédophilie et attentat à la pudeur. Mmh. Toi, ta gueule, Birou. Laisse-la parler, hein. Tes bondieuseries, elles commencent à me courir. Et moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. Allez, toi, la gamine, continue.
Birou était un vieil homme. Si vieux que personne ne semblait l'avoir connu autrement que vieillard, au visage buriné par le vent, le soleil, la pluie, le gel. Ses cheveux et sa barbe blanche formaient une crinière laiteuse autour de son visage. Et ses yeux, des yeux incroyables, profonds, qui semblaient contenir toute la sagesse du monde et dont nul n'avait jamais pu deviner la couleur tant ils étaient moirés et changeants. En effet, d'étranges bruits couraient sur le vieillard. Sa solitude, son âge, ses perpétuels doutes, tout intriguait. Certains disaient de lui qu'il était sorcier.
Et la première fois qu'il a abusé d'elle, ça s'est passé où, hein?
À l'appel de « Et pourquoi ?», Biro sortit d'un fourré, les cheveux et la barbe en bataille, recouverts d'étranges fleurs d'or.
Que veux-tu, petite ?
Ben, voilà, je voudrais connaître le secret des étoiles.
Répondit « Et pourquoi ?», en baissant les yeux, intimidé par le regard pénétrant de Biro.
Dis donc, y a pas que son regard qui était pénétrant, hein ? Il n'y avait pas sa biroute aussi ?
Biro, livrant son savoir pour la première fois, en avait des choses à raconter.
Ah, ces messieurs dames manient la métaphore avec art.
Bien sûr, l'histoire ne nous dit pas tous les secrets que le vieillard confia à la petite fille.
Bon, d'accord. Toi, t'es peut-être pas au courant de tout. Mais toi, le gourou, il serait peut-être temps que tu t'allonges maintenant, non ?
Le secret de la vie réside dans les étoiles.
Comment ça, Biro ?
Bien sûr, pas la vie quotidienne et ses aléas. Mais ce qui fait que la vie est une chose merveilleuse, le rêve.
Ben voyons, on entre dans la quatrième dimension défoncée. Une môme, c'est moins rétif, c'est ça, hein ? Et tu lui donnais quoi ? Ecstasy ? LSD ?
Les gens ne savent pas rêver. Ils doivent attendre d'être endormis pour partir dans ce monde merveilleux.
Ah ouais, ça je connais alors, ça c'est de l'opium.
Alors que le rêve se passe tout éveillé. C'est lui qui nous aide à rendre la vie plus belle. Mais pour cela... il faut aller chercher l'étoile des enfants, celle qu'aucune carte du ciel n'indique jamais, car elle n'est visible que par ceux qui savent regarder avec leur corps tout entier.
Ah, c'est bien ce que je pensais, de l'ecstasy. Ah, tu vas pas y rester longtemps dans tes nuages, papy. Et toi, pétasse, c'est pas le moment de t'endormir, hein, j'ai pas fini avec toi. Il l'a droguée, hein, la petite. Allez, raconte-moi, et n'essaie pas de le couvrir, hein, c'est trop tard.
Alors, elle la vit, cette étoile merveilleuse. Elle la regarda avec ses grands yeux étonnés, tendit le bras et le corps tout entier et l'attrapa. Elle en avala rapidement un morceau et la relança dans le ciel. En l'avalant, ses yeux se mirent à prendre des reflets jaunes. Elle redescendit chez elle, rêvant, rêvassant, comme disent un bon nombre d'adultes, à une multitude de choses.
Eh bien, je crois que cette fois, tout est clair. Violence sexuelle sur enfant drogué. À défaut de faire de la dentelle, vous allez pouvoir vous lancer dans la tapisserie pour un bon petit moment. Hein. Et pour retrouver les autres victimes ?
On les reconnaît aux paillettes d'or qu'ils ont parfois au fond des yeux.
Bon, brigadier, il a tout noté ? Il a les déclarations en 6 exemplaires ? Bien. Allez, il leur fait signer les procès-verbaux et il est gentil de me dire tout ça.
Un gendarme doit avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout, Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, Car ce qu'il doit avoir, et surtout, c'est de la tactique, dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique la tactique.
Tiens, salut Robert.
Salut Gérard, alors c'est toi qui te coltines le gourou ? Pas facile de lui tirer les vers du nez à cette tarlouse.
Ah ouais, t'as raison, hein. Parle pas de celui-là. Genre nouveau criminel, toi. La brute molle, le bandit sans muscle. D'autant plus dangereux qu'il a la tête du parfait honnête homme.
Bon bah tiens, vise un peu ce que je te ramène. Le dernier numéro de CRSC d'aujourd'hui. Il y a un planton qui pleure sa mère.
Fais voir.
C'est à pisser de rire. Tiens, va, mate.
Poème rédigé par un CRS anonyme. Non, attends, c'est un gag ou quoi ça ?
Allez-y, tu vois.
Il doit se taire, savoir tout faire. Bah, donner l'heure, avaler sa peur, faire circuler les voitures, inventer la situation future. Non, mais il est con comme un planton, celui-là. Il doit savoir tout faire.
Eh, remarque, hein. Si ça, et ça serait une lumière, il serait pas planton, il serait inspecteur comme nous.
Ah oui, ça c'est sûr. Supporter la bêtise, ignorer la méprise, il doit se retenir de pisser.
Et bah, par contre, il se lâche.
Et aussi, toujours se hisser. Pour donner un maximum et obtenir le minimum.
Je ne veux plus entendre parler de grève. Nous ne sommes pas des plombiers. Nous sommes des agents de police. Et les policiers ne font pas la grève.
Quand la France sort ses ministres, il fait le pot de fleurs triste.
Surtout ne change pas de pose, hein, t'es parfait.
Il fait le pot de fleurs triste, car il sait, au fond de lui, qu'ailleurs on a besoin de lui.
À part ton chien, moi je vois pas.
Il doit faire preuve d'initiative. Et s'il se trompe, c'est la bêtise.
Seul, sur le trottoir.
Il prend combien ?
De ses longues gardes statiques, avec gilet pare-balles, fusil, radio. Sous l'œil critique, il est bien souvent aux intempéries, à Paris, presque toujours sans abri.
CRS ou SDF, le mec, tu crois ?
Oh. Qu'il gèle, pleuve, vente ou neige, il lui faut faire tourner le manège. On lui demande de mettre du cœur au travail, alors qu'on le traite comme du bétail.
Comment distinguez-vous quand celui-ci donne dans l'état d'âme de supermarché ?
Le contestataire a varié.
Et au fait, j'y pensais. T'as été payé des heures supplémentaires de Vigipirate ?
Il nous faut quelque chose de plus. Il nous faut un policier qui fonctionne 24 heures sur 24. Un policier qui n'a besoin ni de manger, ni de dormir. Doté d'une grande puissance de feu et des réflexes adéquats. Mes chers collègues, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le champion de la sécurité publique.
Inspecteur, inspecteur ! On ramène les casseurs qui sont fait serrer ce matin à la manif. Mais vite, vite, vous n'entendez pas le bordel ?
Ben, calmez-vous, brigadier. Hein. Vous n'avez qu'à nous amener les plus excités. On va leur montrer qui va casser qui.
Ok, chef.
Alors on va au manif casser du coffre, des vitrines, hein. Et toi la môme, c'est quoi que t'as cassé d'abord ?
Mais toi tu me casses pas mes rêves là ?
Ouais, commence pas, toi tu réponds gentiment, toi. Toi le grand, tu viens de quelle banlieue ?
Bon, en tout cas d'une banlieue où la volaille elle rentre pas, man.
Ok, mais en attendant vous êtes chez nous et on va vous montrer ce que c'est qu'un flic.
Nous avons les moyens de vous faire parler.
Vous avez Robocop.
Nous avons la colère.
Vous avez Robocop.
Nous avons la colère.
Vous avez des bunkers. Nous avons la rue.
Vous avez des technocrates.
Nous avons les trains.
Vous avez les experts.
Nous avons les centrales.
Vous avez les décideurs.
Nous avons les machines.
Vous avez le mensonge.
Nous avons le scandale.
Vous avez l'argent.
Nous avons la dignité.
Vous avez le pouvoir.
Nous avons l'énergie.
Vous avez l'économie.
Nous avons la communauté.
Vous restez de glace.
Alors nous, on vous met le feu.
Vous êtes une puissance abstraite.
Nous sommes la société.
Contrôle sans embâche. Pas de flic dans les quartiers. Pas de quartier pour les flics. Pas de quartier pour les flics. Pas de flic dans le quartier. Pas de flic dans le quartier. Pas de quartier pour les flics. Plastique, les flics, les flics, plastique.
J'ai cauchemardé. Il y avait des gendarmes partout. Plein partout. J'ai cauchemardé des gendarmes.
Allô, allô, Condor Azéglombé ? Vous dormez ou quoi ?
Allô ? Oh, ma tête. Oh, j'hallucine, où je suis ? Oh. Allô, Condor, allô ?
Allez, secouez-vous. On se retrouve au Cocardie.
Ok, on se retrouve au Cocardie.
Allô ? Encore une tête de piaffe ? Où est-ce que t'en es ? Tu t'es encore mis au vert, hein ? Avec tes lubies champettes, tu vas finir comme tous ces dindons. Au marron. Au fait, les églombés ont l'air bien allumés. Ils se sont pris une belle parano. Sûrement un coup de vigimoineau. Bon, bah, à toi de jouer, mais n'oublie pas. Radis ou paradis, faut pas planer.
Thank you.
m'approche donc avec peine du lieu de notre visite d'aujourd'hui. Ça y est, je les vois, les charmantes masures de nos révolutionnaires ruraux. C'est l'émotion qui m'étreint à l'idée de rencontrer ces valeureux et valeureuses camarades qui élargissent le front de la lutte révolutionnaire contre la tyrannie capitaliste jusque dans les rues de contrées rurales. Merde, je m'en suis foutu plein les pompes. Je pénètre donc dans la cuisine. Tout le monde est à table, que de chaleur.
Ça fait des grands. Et ça fait des grands.
Salut,
salut
camarade. Salut, la coco.
Et tu veux clapper?
Ah, des légumes de votre jardin. Mais alors, l'autonomie alimentaire, c'est pour de vrai?
Évidemment, nous refusons de cautionner la distribution marchande du système capitaliste. Nous avons donc notre propre production. Hein.
Oh, c'est sûr, on a des jardins, mais bon, on n'est pas toujours des acharnés, alors...
Bon, alors, camarades, mais qui êtes-vous?
Nous sommes un collectif autonome d'individus libres qui construisons dès aujourd'hui les bases d'un nouveau monde.
Tu parles, on est toujours fourrés ensemble. Une vraie communauté, ouais. Une famille, même parfois. Enfin, il y en a qui ont besoin de ça. Donc, collectif, c'est plus politique. Et puis, un nouveau monde. Un nouvel ordre mondial, tant que tu y es. En fait, ce qu'on essaye, c'est de faire vivre un projet où la vie, le quotidien, ne sont pas parcellisés. Et les gens pas atomisés.
Ouais, en fait, ce qu'on essaye, c'est de construire un lieu qui n'appartient ni à un groupe de personnes définies et fixes. Et comme ça, toute personne intéressée par le projet peut le faire vivre et évoluer. Bon, en plus, ça permet d'être mobile.
Et tout ça, de Dieu, on y tient. Alors, vous êtes arrivés, camarades. Vous êtes une micro-société anti-autoritaire, anti-propriétaire.
Mais non, nous avons dépassé la micro-société. Nous avons aboli la séparation ville-campagne. De plus, il ne peut y avoir de survie biologique sans disparition du capitalisme lui-même et...
Ouais, tranquille, Basile, dis donc, tu vas souvent à la ville, toi, hein? Bon, d'accord, on y va de temps en temps, quand il y a des projets ou des luttes qui s'y vivent. Mais passer du... au... c'est pas si facile. C'est vrai, il y a un réseau de lieux, en ville, à la campagne, dans lesquels circulent les gens, les idées, les compétences, le matos, la bouffe...
Et t'oublies les microbes. Ouais.
Ah ben, tout de même, il y a tic-tac qui est une concrétisation de ce réseau.
Et puis fini, les illusions se sont putardes. Ils sont enfermés dans une micro-société. Ils se trouvent d'aller crever dans son ghetto. Ou à reproduire ce qu'on combat. Et toc, faire la révolution à moitié, c'est creuser sa propre tombe. Comme tu le disais, nous avons aboli la hiérarchie, Corinne.
Ouais, enfin, les petits chefs, c'est comme les permanents. Il y en a des fois, ils s'installeraient. Alors, la seule solution...
c'est la vigilance.
Bon, allez, on va dehors.
Et me voici, camarades, en plein cœur de la forêt, face au sommet enneigé, où Véronique se construit une charmante maisonnette. Alors, Véronique, tu refuses la collectivisation de l'habitat?
Collectivisation? Tu parles, on se marche dessus, les repas à 30, aucune intimité. Et puis Jean-Marc est avec Sophie. Enfin, ici c'est ma bulle, je me suis amusée à la construire comme je voulais, et j'invite qui je veux, et puis je suis autonome, j'ai mes panneaux solaires. Rebelle, hein? Mais t'inquiète, le projet collectif, c'est toujours mon histoire. Mais quand je veux.
Et tu penses que la nature est une parcelle du capital?
Oh là, Coco. Écoute, regarde et sens.
Alors, c'est pas le bonheur?
Tard, tu vois, nous on peut pas. Et puis, on veut pas s'en passer.
Ouais. Mais je vois que vous avez beaucoup de terre. Et alors, les rapports avec vos camarades, voisins, paysans, pour la collectivisation des terres?
Bien.
Au début, c'était pas sympa, les petits jeunes de la communauté. Vous avez invité un bon pas. Nous avez causé de la collectivisation. Et puis, finalement, nous ont squatté tout l'hôtel, hein.
C'est pas vrai, ça.
Et me voici de nouveau à la commune où les camarades sont en pleine discussion.
Camarade.
Je m'approche.
Camarade.
Il y a de l'eau dans le gaz.
Il manque 2000 francs pour payer le téléphone. Qui n'a pas payé sa cotise?
Mais enfin, camarade, vous avez sûrement dépassé ce fléau qui détruit la communauté humaine, l'argent.
Ici, il n'y a pas de rapport marchand. Rien ne se monnaie, ni entre nous, ni vis-à-vis de l'extérieur.
Ouais, ça c'est vrai, on n'est pas des épiciers. Non, par contre, c'est chacun son truc, chacun sa démerde. Hein.
Ouais, bon, ok. Allez, Coco, un petit vin de pêche locale.
Ouais, un petit jus.
Mais t'inquiète, on lui tendra le cou, le pactole en commun, ça sera pour nous.
Un petit jus vin aussi. Tu sais quoi, t'as renversé ton verre, arrête.
C'est toujours ça qu'ils auront pas.
Allô? Ah là là, me bla bien entre ceux qui sont scotchés et ceux qui se perdent. Heureusement que c'est l'heure d'avoir retrouvé mes oiseaux, cocardi.
Hey, taxi!
À la butte aux cailles.
Comme si on y était.
Ça ne vous dérange pas si je fume?
Oh non, non, si ça vous dérange pas que je parle. Vous savez, j'ai passé mon temps dans pas mal de pays d'Europe. C'est au milieu du siècle. Eh oui. Quand j'avais 19 ans, j'ai commencé à mener une vie pleinement indépendante. Tout de suite, je me suis trouvé comme chez moi dans la plus malfamée des compagnies. C'était à Paris, qui était si belle que bien des gens ont préféré y être pauvre plutôt que riche n'importe où ailleurs. Qui pourrait maintenant qu'il n'en reste rien? Oh, oh. Qui pourrait maintenant qu'il n'en reste rien comprendre ça? Hein? À part ceux qui se souviennent de cette gloire. Qui d'autre sait les fatigues et les plaisirs qu'on a connus dans ces lieux où tout est devenu si mauvais? Paris, dans les limites de ses 20 arrondissements, ne dormait jamais tout entier et permettait à la débauche de changer 3 fois de quartier. On n'en avait pas encore chassé et dispersé ses habitants. Il y restait un peuple qui avait 10 fois barricadé ses rues et mis en fuite des rois. C'était un peuple qui se payait pas d'image. On n'aurait pas osé, quand il vivait encore dans sa ville, lui faire manger ou lui faire boire ce que la chimie de substitution n'avait pas encore osé inventer. Ah là là! Les maisons n'étaient pas désertes dans le centre, pour vendues à des spectateurs de cinéma qui sont nés ailleurs, sous d'autres poutres apparentes. La marchandise moderne n'était pas encore venue nous montrer tout ce qu'on peut faire d'une rue. Ah là là, personne, à cause des urbanistes, n'était obligé d'aller dormir au loin. On n'avait pas encore vu, par la faute du gouvernement, le ciel s'obscurcir et le beau temps disparaître. Et la fausse brume de la pollution couvrir en permanence la circulation mécanique des choses dans cette vallée de la désolation. Les arbres n'étaient pas morts étouffés et les étoiles pas éteintes par le progrès de la nation. Ça, les menteurs étaient comme toujours au pouvoir, mais le développement économique ne leur avait pas encore donné les moyens de mentir sur tous les sujets, ni de confirmer leurs mensonges en falsifiant le contenu effectif de la production. Ah, c'est pas possible ça. Enfin, je me bornerai à peu de mots pour annoncer que, quoi que d'autres veuillent en dire, Paris n'existe plus. La destruction de Paris est une illustration exemplaire de la mortelle maladie qui emporte en ce moment toutes les grandes villes. Et cette maladie n'est elle-même qu'un des nombreux symptômes de la décadence matérielle d'une société. Mais Paris avait plus à perdre qu'aucune autre. Croyez-moi, mademoiselle, c'est une grande chance que d'avoir été jeune dans cette ville quand pour la dernière fois elle a brillé d'un feu intense.
Beau merle, hein ? Mais les chants les plus courts sont les plus beaux. Et c'est l'heure de mon émission préférée. Les angoisses de l'histoire, tu connais ?
Tu connais pas.
Commander et obéir font partie des choses non seulement inévitables, mais encore utiles. Certains êtres, immédiatement dès leur naissance, se trouvent destinés les uns à obéir, les autres à commander. Le même rapport se retrouve entre l'homme et les autres animaux. Les animaux domestiques ont une nature meilleure que les animaux sauvages, et pour eux tous, il vaut mieux être soumis à l'homme, car ils y trouvent leur sécurité. De plus, la relation du mâle à la femelle est par nature celle de supérieur à inférieur, de gouvernant à gouverné. Ce principe s'applique nécessairement à tous les hommes.
C'est tout à fait vrai, mon cher Cicéron. Mais il y a des esclaves à favoriser plus que d'autres. Il faut stimuler l'ardeur de contremaître, en leur accordant des primes, en leur permettant de se constituer un pécule, de l'épargne, d'avoir des concubines esclaves comme eux, qui puissent leur donner des fils. Ces mesures les attachent mieux au domaine. Il faut se gagner des contremaîtres, et ceux des ouvriers qui se distinguent parmi leurs camarades, en leur témoignant de l'estime, en discutant avec eux des travaux à exécuter. Comme ça, ils se sentent moins méprisés, et ils sont tenus à un certain rang par le maître. On stimulera leur zèle au travail par un traitement plus libéral, des rations plus abondantes, des distributions de vêtements par exemple, des exemptions de travaux, des congés, des permissions de disposer d'un coin du domaine pour faire paître des bêtes. Enfin, toutes les mesures de cet ordre. De cette façon, ceux qui auront fait l'objet d'un ordre ou d'un châtiment un peu rude, un peu sévère, ceux-là, ils pourront trouver quelqu'un qui, par ses consolations, les ramènera de bons sentiments envers le maître.
Épictète, mon esclave, me disait l'autre jour, c'est le vœu de l'esclave d'être vite libéré. Si je suis libéré, dit-il, aussitôt, tout est bonheur. Je n'ai plus à faire attention à personne, je parle à tous comme leur égal et leur semblable, je voyage où je veux, je viens d'où je veux et je vais où je veux. Le voilà affranchi, bien vite, ne sachant où aller manger, il cherche qui il pourra bien flatter, chez qui il pourra dîner. Alors il est malheureux, se lamente et soupire après l'esclavage. Quel mal éprouvais-je alors, dit-il. Un autre me fournissait mes vêtements et mes chaussures, il me nourrissait, me soignait dans mes maladies. Mon service envers lui était peu de chose, mais à présent, malheureux, que n'ai-je à souffrir.
Épictète, apporte-nous un peu d'eau chaude.
Les angoisses de l'histoire, 1820 après Jésus-Christ, Caraïbes.
Soy negro como la noche, está plagada de estrellas. Mi canto y mi poesía se van inspirando en ellas. El pasado quedó atrás, no sigo ni
Monsieur,
huella.
Je vous donnerai un exemple. C'est un exemple peut-être un peu scabreux, mais je crois très significatif et qui éclaire tout. Messieurs, que préférez-vous? Ou disons plutôt, qu'est-ce qui vous convient le mieux? Votre femme? Ou l'une de ces mulâtresses qui sont là? Non, non, ne vous méprenez pas, c'est du point de vue économique dont il s'agit, du prix de revient, de la rentabilité du produit à l'état brut. J'entends par là de l'amour. L'amour physique, cela va de soi. Il ne faut pas confondre sentiment et économie. Eh bien, à une femme, on doit offrir un toit. On doit l'habiller, on doit la nourrir, et il faut bien la soigner quand elle est souffrante, etc., etc. Il faut qu'une femme soit entretenue pendant toute sa vie, aussi quand elle devient vieille et improductive. Et il faudra payer encore pour ses funérailles si par hasard on lui survit. Non. Ce n'est certes pas une boutade, messieurs. Croyez-moi, c'est vrai ce que je dis. À l'inverse, avec une prostituée, tout s'arrange. Les frais sont insignifiants. On n'est pas obligé de la loger, de la soigner, de la nourrir, de la vêtir et encore moins de l'enterrer. Une prostituée se prend lorsqu'on en a envie et on ne la paie que pour cela. Et elle est payée, si on peut dire. Et alors, messieurs, dites-moi, selon vous, quel est le plus rentable? Un esclave ou un ouvrier salarié?
Mais l'argument au sujet des filles ne me convainc qu'à moitié, monsieur. Il manque une hypothèse. Si notre nègre, alors qu'il cessera d'être esclave, au lieu de devenir un ouvrier, voulait devenir patron.
Quelle est la situation? Si vous n'intervenez pas tout de suite, si vous laissez faire cette révolte sans tenter de la contrôler, vous serez vite nettoyé. Même si vos anciens esclaves ne deviendront pas vos ouvriers salariés, ils ne deviendront pas non plus vos patrons, monsieur. mais vos tortionnaires et vos bourreaux. Ce que l'Angleterre ne veut pas, et ce qu'aucun d'entre vous ne souhaite, ce sont des révolutions poussées à leur extrême conséquence. Les exploits d'un Toussaint Louverture ou d'un José Dolores peuvent toujours servir, au début, à briser une certaine situation, mais à la fin, elles deviennent dangereuses, comme à Haïti. Messieurs, comme vous voyez, je crois que dans tout ceci, nos intérêts coïncident, du moins pour l'instant. Et ils coïncident aussi avec le progrès et la civilisation.
Les grosses angoisses de l'histoire. 1995 après Jésus-Christ. Qu'en pense l'ouvrier salarié ?
Por eso cuando algunos obreros todavía engañados dicen que el patrón en el fondo es bueno, otros le contestan que sí, en el fondo es bueno, pero en el fondo de la tierra.
Quand des ouvriers disent que le patron est bon, d'autres répondent qu'il est bon au fond, mais au fond de la tombe.
Hey, écoute, pas mal cette chanson.
Enfermé à tout le cri dans un placard, bâillonné par le sexisme, l'homophobie et le patriarcat, humilié à douter de sa propre normalité, cloisonné et ne pas vivre son homosexualité, l'amour est en forme de poème. Il n'a jamais, jamais, jamais connu de loi. Hein? Oui, homo, c'est ma façon d'aimer. Oui, homo, c'est ma sensibilité. Oui, homo, c'est ma sexualité. Oui, homo, désir, c'est ma réalité. L'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais, jamais, jamais connu de loi. Hein? Pendant trop longtemps, tu nous as chassés. Pendant trop longtemps, tu nous as opprimés. Pendant trop longtemps, tu nous as réprimés. Pendant trop longtemps, à ne plus savoir comment aimer. L'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais, jamais, jamais connu de loi. Moi, j'ai la rage d'aimer. Et toi, dans ce système hétérosclérosé. Et toi, t'es tout simplement demandé si tes sentiments étaient réels ou imposés. L'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais, jamais, jamais connu de loi. Hein? Alors aujourd'hui, dans ce système hétéro-bénitier, pourrais-tu une seconde t'imaginer pouvoir t'enivrer ou juste caresser ce bel amour bel et enragé? L'amour est au fond de bohème. Il n'a jamais, jamais, jamais connu de loi. Hein?
Et maintenant, notre flash d'information.
Monsieur Juppé, ne nous prenez pas pour des cons. Même si les cheminots et les travailleurs sont parfois comme moi, bac moins 3, vous ne nous ferez pas prendre des vessies pour des lanternes.
Voilà la belle, on est rendu. Et la course, c'est pour moi.
Ah, ça c'est bien dit. Au revoir.
Au revoir.
On va se mettre là près du jukebox. Appelle la patronne, celle qui a la tête d'un légionnaire à la retraite. Et une tournée de perroquets pour les vaillants volatiles.
Ouais, sans eau pour moi. Chut. Écoutez le croassement de ces vilains corbeaux là au bar.
C'est de la merde!
6 et 7 000 francs par mois et se battraient pour garder leur travail. On nous demande de faire des efforts, nous les petits, les grands, ils ont qu'à faire pareil aussi, les mêmes efforts.
Mais on fait 15 heures par jour, on fait pas 38 heures par semaine comme les conducteurs de métro.
Eux, ils font 6 heures par jour, moyenne en quoi. Si vous divisez ce qu'elle gagne par rapport à ses horaires de travail, elle gagne pas le prix d'une femme de ménage.
Une serveuse ne gagne pas davantage qu'un conducteur de chauffeur de métro.
Ça nous fout tous dans la merde.
On a diminué de 50% le chiffre d'affaires.
Ah bon? Et qui va nous payer nos factures dans ces cas-là?
Les gens ne s'arrêtent pas, ils passent, hein, et les gens n'ont pas le temps de s'arrêter.
Bien sûr.
Du plan
végétarien.
Non, absolument.
Ça n'a rien à voir. Alors, les gens n'ont pas peur de sortir. On est tous armés maintenant. Végétarien, ça a servi à quoi? Ça a servi tout simplement à sécuriser un petit peu l'opinion publique, de se dire, bon ben, on va contrôler un petit peu des sacs à dos et toutes ces conneries-là un petit peu partout, mais c'est tout.
Repérer la délinquance un peu. Comme il y a des flics partout en France, ça s'en fait
Non. Dans une manifestation, il y a deux groupes. Il y a celui qui manifeste son mécontentement, et puis il y a celui qui ferme la marche et puis qui profite de la situation.
Je suis pas d'accord sur le permis de fusil, il y a quand même la moitié, c'était des
étudiants. Oui, mais eux, ils ont raison.
Oui, il y a moitié.
Eux, ils ont raison. Et je vais vous dire, pourquoi qu'ils ont raison. Dites donc, mademoiselle, vous avez des étudiants qui ont fait 15 et 20 km à pied le matin pour aller dans leurs études, pour avoir leur conscience d'aller faire leurs études. Et puis quand ils sont arrivés sur place, et puis que le prof, il a vu qu'il y en avait un ou deux, hein, il leur disait, puisque vous êtes que deux, mes enfants, je vais pas m'emmerder, aujourd'hui on n'a pas cours. Et le môme, il se sera levé à 5h du matin pour faire ses 20 bornes à pied. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez normal qu'il y a de plus en plus d'étudiants et de moins en moins de locaux et de moins en moins de professeurs? Est-ce que vous trouvez normal? Chaque année, on enlève des postes dans les enseignants. Chaque année. Vous avez vu aujourd'hui? Voilà ce qui se passe. Des casseurs, s'ils viennent nous casser ici, on leur casse les dents. Personnel.
Humain avec ces gens-là.
Et désarmé
maintenant.
Je vais vous dire, non, ça ne s'arrangera pas. Ça s'arrangera avec une bonne Yougoslavie ici si ça continue. Et puis il va bien falloir qu'un jour on y aille, et puis il va bien falloir un jour que au casse-pipe, vous pensez arranger le problème autrement, vous? Je veux tout simplement dire qu'ici, un jour, pour que ça finisse par obtenir gain de cause, que ça fasse une Yougoslavie. C'est chacun sa place. Les grands, c'est le gouvernement. Les petits, c'est nous. Pourquoi voulez-vous que moi, petit, j'aille protéger quelqu'un qui t'en prend plein la gueule quand les grands qui en ont les moyens et les possibilités ne le font pas? Bien sûr. Moi, je suis dans les marchés. Je suis dans les marchés.
Ça fait 14 ans qu'il y a dans le gouvernement.
Et qu'est-ce qu'il dit à Régis à propos de tout ça?
Que c'est le bordel, que c'est la merde. Pourquoi que nos produits français s'en vont à l'étranger, puis que les produits étrangers qu'on a ici sont de la merde et qu'on les paye très cher? Ils ont raison. Vous savez, nous, ici en France, on a tout. On a nos vins, on a des très bons vins, on a des très bons fruits et légumes, on a besoin de personne. C'est le monde qui nous entoure qui a besoin de nous. Hein. Nous ici, on a besoin de personne. Regardez autour de vous, vous travaillez de plus en plus, vous faites de plus en plus de concessions et vous gagnez de moins en moins d'argent. C'est même plus de la politique, ça. Hein. Bien sûr. Qui c'est qui tient les rênes? Qui c'est qui prend notre pognon? C'est bien le gouvernement, non? Qui c'est qui distribue notre pognon? C'est bien le gouvernement, non?
Même
pas où va notre pognon, en plus.
Si, on sait où il va.
Enfin, à la limite, on sait où il va.
Si, on sait où il va.
À la limite, oui, remarque, c'est vrai, on sait où il va.
En Afrique, il va.
Il va partout, le pognon. Sauf chez nous. Et quand nous, on a besoin de quelque chose, on vient nous dire, messieurs, payez. Mais il faut serrer la vis. Pourquoi c'est toujours les mêmes qui la serrent, la vis? La sécurité sociale est en déficit.
5 milliards, c'est quasiment rien, en fait, non?
5 milliards, non, c'est rien. On va te faire un chèque.
La sécurité sociale ne sert qu'aux étrangers bientôt en France.
Mais bien sûr.
Vous voulez que je vous donne un fait tout à fait précis? Désolé, je vais vous donner un fait tout à fait précis.
Laisse-la.
S'il te plaît.
Laisse-la.
Je vais vous donner un fait précis. Ça s'est passé, je suis désolée.
Deux tensions alors.
Bon, tu la fermes ta gueule. Hein. Tu la fermes ta gueule parce que sinon tu sors. Je suis allée, il y a un mois de cela, je suis allée au service social pour un monsieur qui était très malade. Je suis arrivée au service social, il y avait 10 personnes avant moi, c'était que des Arabes. Il y avait 5 personnes derrière moi, ce n'était que des Arabes. Et ce monsieur, il n'avait pas fait sa demande de carte Paris Santé en temps et en heure. J'étais obligée de taper sur la table. Il était en train de mourir debout, ce monsieur. Et je vais vous dire, quand j'ai tapé sur la table, j'ai eu toute la sécurité qui est arrivée dans les portes. C'était que des Noirs. J'avais eu affaire à une personne en face de moi, c'était une Noire. J'ai demandé aux personnes si on était vraiment au service social des Français. On m'a dit oui. Je suis désolée, hein, mais comme moi je vois ça, eh ben je suis en colère. Je suis en colère.
Travail,
je lui dis, pourquoi ce monsieur, on ne peut pas le faire rentrer à l'hôpital? C'est vrai, il n'avait plus de couleur, il était vert. Parce qu'il ne s'appelle pas Mohamed, en urgence, on me l'a refusé.
La salle d'attente a été pleine d'étrangers. Je suis désolée, mais je suis obligée de le dire. Eh bien, madame, je suis désolée, monsieur, ça, c'est pas normal.
Absolument.
C'est pas normal que la sécurité sociale serve à ces gens-là parce que ce sont des gens qui ne cotisent pas. Nous avons tous les jours des gens devant nous qui ne cotisent pas et qui ont la carte Paris Santé.